Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors toutes les semaines, tu vas trouver ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé, même pendant l'hiver. Et oui, Johan Durand, athlète membre de l'équipe de France de marathon, le roi des crosses, est avec moi. Salut Yodu.
Toujours là.
Comment ça va?
Ben ça va impeccable, ouais, le roi des crosses, dans la boue, dans le... c'est l'hiver, hein, c'est le plaisir de l'hiver.
Tu retrouves le goût de la gagne, on va en parler. Incroyable, magnifique.
Oui. Il faut repartir aux bases, ouais.
Ah ouais, ben bon, c'est important. Alors, mon petit Yodu, une thématique qui va tous vous intéresser cette semaine, à vous, fidèles auditeurs d'RMC Running. Comment booster son immunité pendant l'hiver? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Quel est l'intérêt de prendre des compléments alimentaires? Pourquoi faut-il éviter ses enfants pendant 6 mois? Et voilà, toutes ces questions, on va y répondre. Et pour en parler avec nous, on accueillera Marie Chavanne, qui est experte en nutrition sportive. Elle va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec Christophe Cario, qui est quintuple champion du monde de karaté artistique et qui est également fondateur de NutriPure, une gamme de compléments alimentaires basée sur la qualité et la pureté des matières premières et sur la transparence des produits. Il va nous parler de tout ça. Voilà, les compléments alimentaires idéaux pour progresser, pour rester en forme dans ces entraînements de course à pied. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC.
Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas en forme.
Justement, vous avez pas boosté votre immunité, vous?
Ah, ça c'est le grand truc, ça, booster son immunité, oui. Comment renforcer votre système immunitaire. Alors,
n'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, bon, qui a besoin à la fois d'être canalisée mais libérée en même temps.
Ça commence déjà dans la gorge, les amygdales, les végétations, mais même le nez, les poils du nez par exemple.
Ah bon?
Ça participe déjà à être la première barrière, parce que ça va retenir les particules.
Je t'arracherai les poils du cul, dire bonjour.
Il faut en prendre soin de son système immunitaire, mais il n'y a pas la pilule miracle qui va le booster.
Oh, j'ai l'épilé de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh.
Le sport, l'activité physique va vraiment vous donner une santé, une pleine santé, booster là pour le coup votre système immunitaire. Par contre, l'alimentation, c'est fondamental.
Tiens Noël, t'es sûr que tu veux pas des fruits? C'est vraiment très bon.
Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi.
Ça veut dire que si vous êtes heureux de vivre, optimiste, eh bien vous avez une bien meilleure immunité que si vous êtes dépressif et anxieux.
Alors...
Ah, magnifique production sonore, bravo Geoffrey Charpie, bravo Julie Dereau, la réalisation. Eh ouais, on s'est régalé, ça a bien illustré le sujet du jour. Johan, on accueille Marie Chavanne, experte en nutrition sportive, en direct avec nous. Salut Marie.
Salut, bonjour.
Bienvenue dans RMC Running.
Merci.
Marie, basée à Font-Romeu, l'un de tes endroits préférés en France, mon petit Yodu.
Exact.
Mais alors,
c'est l'endroit où je passe 5-6 mois de l'année.
Alors, ouais. Quand
dès qu'il n'y a pas la neige. Quand il fait trop froid, il ne voit plus.
Voilà, c'est ça. Mais quand je dis basée, c'est vraiment originaire de Font-Romeu, Marie. Hein.
C'est ça, ouais. J'ai grandi à Font-Romeu et j'ai été dans le sport de haut niveau en biathlon pendant près de 10 ans. Donc les pistes, je les connais plus que bien, je pense, au niveau de la station.
Sport-études biathlon, c'est ce que j'ai vu, Marie. Félicitations.
Exactement.
Donc on imagine un énorme cœur, un gros cardio et un bon niveau en course à pied. Est-ce que tu cours d'ailleurs, Marie?
Ben honnêtement, oui, les sports d'endurance, ça fait quand même partie du gros travail foncier qui est mis en place pour le sport qui est le biathlon. Donc effectivement, le running, le vélo, tout ça, c'est des piliers. Donc j'aime beaucoup courir, ouais. Je m'intéresse au running.
Et ouais. T'es bon avec une carabine, toi, Johan?
Non. Non, déjà, j'ai 11 ans d'armée derrière moi et pourtant ils m'ont jamais fait tirer, ils n'ont jamais osé me mettre une arme entre les mains, donc je peux pas le dire.
Bon, on est ravis de t'accueillir, Marie, tu vas répondre à toutes les questions que l'on se pose. Voilà, notre hantise à tous, c'est tomber malade pendant l'hiver, on veut tous fuir les virus, évidemment. On parle de cette thématique dans un instant, mais on voulait juste profiter de ce début d'année pour parler de toi, Johan. La chance que l'on a dans RMC Running, c'est de suivre un athlète de haut niveau toutes les semaines. Et là, avec comme échéance principale ces Jeux de Paris en 2024, une année extrêmement importante, c'est l'ouverture de la fenêtre de qualification pour les Jeux. tu reviens de blessure, une année compliquée, tu nous l'as raconté sur les derniers épisodes de l'an dernier, de 2022. Comment ça va aujourd'hui déjà, Johan, et comment va s'articuler ta saison 2023 alors ?
Bah ça va mieux, ouais. Donc je me suis fait ces derniers mois là après les championnats d'Europe de Munich, donc une tendinite au tendon patellaire, donc le tendon sous la rotule du genou, donc lié à un choc, hein, lié à un œdème osseux en me cognant bêtement le genou et en courant dessus, hein, bien évidemment, ce qu'il ne faut pas faire quand on a ce genre de pathologie, de blessure, bah, c'est de courir dessus parce que vous aggravez la douleur, mais quand c'est votre métier et que vous avez les championnats d'Europe à préparer, bah, vous serrez les dents et vous tentez le coup. J'ai tenté le coup, ça a pas fonctionné. Donc derrière, je me suis dit, il faut que je me soigne totalement. Donc là, je suis en train de voir le bout du tunnel tranquillement. J'ai repris l'entraînement de façon très progressive depuis début novembre, par un stage à Font-Romeu, justement, où j'ai fait ma fin de rééducation là-bas. J'ai commencé à courir sur tapis altergé, les espèces de tapis qui vous enlèvent la gravité et sur lesquels vous pouvez mettre le poids de corps que vous voulez. Donc j'ai commencé à 70% poids de corps pour, voilà, toujours à Font-Romeu pour redevenir progressivement sur de la course après. Et donc voilà, bah, ça fait un mois et demi que j'ai repris les séances, j'ai repris le fractionné, et là j'ai repris la compétition avec les championnats de Dordogne de cross. Et puis,
comment tu t'es retrouvé là-dedans déjà?
Bah, bonne question, hein. Franchement, au moment de la ligne de départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc le cross, non, mais le cross, c'est la base, hein. Vraiment, pour moi, c'est primordial de repartir aux fondamentaux, de repartir sur les trucs. Je sais que le cross, c'est de la lutte homme à homme, c'est l'hiver, c'est la boue, c'est des relances, c'est tu mets le cardio à 180 au bout de 5 minutes et après, bah, il redescend pas. C'est vraiment là où vous vous forgez le mental et où vous devenez un peu, je pense que pour être bon l'été, il faut aller au mastic l'hiver, il faut se faire mal, il faut aller dans ces épreuves-là. Et donc, j'ai décidé avec mon coach de faire la saison de cross complète, donc à savoir commencer par les départementaux. Puis dans 15 jours, ça va être les championnats régionaux. Dans 3 semaines, les demi-finales des championnats, enfin 3 semaines plus tard, les demi-finales des championnats de France. Et après, en mars, les championnats de France. Donc faire la saison complète de cross, c'est pour moi le passage obligé pour renaître un peu de mes cendres et redevenir fort sur la route. Il faut d'abord que je refasse mes armes dans la boue avant d'être plus fort sur la route, ouais.
T'as une bonne machine à laver ?
Ouais, c'est exactement ça, ouais, parce que oh là là, on a pris la saucée, le bouillon, la boue, enfin le vrai charme du cross. Mais je sais pertinemment que c'est ce genre de travail qui finit par payer. C'est important pour la suite, et donc la suite après, ça s'écrira plus sur le marathon.
C'est ce que j'allais te dire. Ce qui nous intéresse, c'est cette fenêtre de qualif olympique. Est-ce que t'as tout planifié ou est-ce qu'il reste des zones d'interrogation ?
Avec des minima très élevés de 2h08-10, il faut aller sur des parcours qui le permettent de faire des hautes performances. Donc pour moi, les deux parcours qui sont le plus plat et en termes de densité sur mes chronos là sont le marathon de Berlin en septembre et le marathon de Valence en décembre, qui sont vraiment les marathons à ne pas louper quand on vise des gros chronos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se servir des crosses pour redevenir coureur, reprendre du plaisir, reprendre confiance en moi, travailler les bases mentales aussi. Aller faire certainement un marathon en avril, pourquoi pas le marathon de Paris, pour repasser un marathon, refaire une prépa de 10-12 semaines pour me rassurer et refaire un marathon, mais un peu en dedans, pour après repartir solide au printemps et là repartir vraiment à blal mai, juin, juillet, août sur une grosse prépa pour le marathon de Berlin en septembre. Si ça passe pas, derrière il y a Valence en décembre, et si ça passe pas, dernier shoot, voilà, c'est Séville normalement en 2024, où là à mon avis tout le monde, ça sera la dernière chance pour tout le monde, donc Tout le monde sera sur la ligne de départ, quoi.
Écoute, c'est passionnant à écouter. Merci de ta franchise. T'as vu ça, Marie, la chance qu'on a. On a un athlète qui vise les Jeux, qui nous explique tout, quoi. Comment ça va se passer, comment il programme tout ça. C'est beau, ça.
Ouais, on est bien, bien entouré là, pour le coup.
Voilà,
exactement. Non, ouais, il faut penser sur long terme. Hein. C'est ça la difficulté d'un sportif, mais c'est pareil à tout niveau. Hein. C'est vraiment mon gros objectif, ça reste septembre. Et après, il faut dire par où je passe pour aller pour performer en septembre. Donc, ça veut dire repartir par les crosses, par la base, être solide, refaire un marathon au printemps sans me prendre la tête, et puis après, feu.
Bravo. Et l'important, c'est de ne pas tomber malade, mon vieux. On va en parler.
Et exactement. Et sortir de l'hiver solide, ouais.
Cette hantise que connaissent tous les coureurs, tomber malade, devoir freiner, voire stopper son entraînement. Alors, en moyenne, j'ai regardé un peu les chiffres. Un adulte est touché entre 2 et 4 fois par une infection respiratoire sur une année. Voilà. Évidemment, l'hiver, c'est la saison la plus propice pour attraper des virus. Marie, déjà, la première idée reçue, est-ce que les défenses immunitaires sont naturellement boostées par la pratique de la course à pied? Est-ce qu'une personne sportive qui pratique un sport d'endurance a, entre guillemets, moins de chances de tomber malade qu'une personne sédentaire?
Alors, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'immunité. Et c'est vrai qu'au niveau de l'activité physique, ça a été montré. Le fait de pratiquer de manière modérée à élevée une activité physique, ça va améliorer déjà la circulation sanguine, ce qui va permettre aussi une meilleure irrigation, meilleure réponse de l'organisme et donc de l'immunité. Et on va avoir des effets positifs pendant quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on parlait de l'intensité. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité qu'on allait mettre au sein de la pratique sportive, il y allait avoir une réponse plus ou moins importante. Et en fait, on parlait des activités trop épuisantes qui auraient pu temporairement altérer nos défenses immunitaires. Et là, c'est assez récent, depuis peu, on se rend compte que même dans les pratiques très intenses, il y a ce qu'on appelle une réorganisation temporaire. Donc ça, l'organisme réagit.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais noté un bémol, c'est que je pensais que les défenses immunitaires étaient affaiblies après un effort long et soutenu. Parce que c'est-à-dire qu'on tapait tellement dedans, que, pour dire ça vulgairement, que finalement on n'était plus sujet à tomber malade au coup de froid, ce genre de choses.
Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de la fenêtre ouverte, ça porte bien son nom, où en fait, effectivement, une activité intense, trop épuisante, s'aurait pu altérer. Ça a été expliqué sur le fait qu'au niveau sanguin, il y avait moins de défenses immunitaires qui étaient présentes. Et donc, dernièrement, on se rend compte que ces défenses immunitaires, elles vont surtout au niveau des poumons, qui, en fait, tout simplement pour protéger l'organisme, il y a une réadaptation, réorganisation, puisque lors d'une activité physique, on le sait, il y a quand même une respiration qui est augmentée. Donc effectivement, les sportifs sur ça ont un point d'avance.
Bon, Johan, est-ce que c'est ta hantise, tomber malade sur une prépa spécifique, devoir t'arrêter, repartir un peu de zéro
Là, en ce moment, il y a la grippe qui tourne beaucoup, il y a toujours cette espèce de Covid au-dessus, il y a la gastro qui est là, ouais, c'est difficile et l'hiver c'est compliqué chez le sportif de haut niveau parce que des fois on va alterner moi je prends mon cas par exemple, je vais certainement partir au soleil pendant 15 jours 3 semaines parce que j'en ai un peu marre de courir par 0 degré et de mouiller sur toutes mes sorties. Donc du coup l'organisme il comprend plus trop parce que du jour au lendemain vous passez de 0 degré à 20 degrés pendant 3 semaines puis vous rebasculez à 0 degré 3 semaines plus tard. Et là, la difficulté, c'est de ne pas tomber malade, de terminer ses entraînements, de vite se sécher, parce que quelque part, votre organisme, il comprend plus trop ce qui lui arrive, parce que vous êtes passé d'un endroit où c'était l'été, et vous revenez en plein hiver, choc thermique, et puis les entraînements, vous sortez de la douche avec les cheveux un peu humides, et boum, là, ouais. C'est malade à tous les coups. Et sur une préparation marathon, quand par exemple, on sait que les prépas sont quand même assez courtes, de 10 à 12 semaines, si vous perdez une semaine, c'est quand même beaucoup. Hein.
Ouais, c'est sûr, évidemment. Est-ce qu'on est plus en danger lors de la période d'affûtage, Marie? C'est-à-dire lorsque la prépa est bien passée, on a passé le gros bloc, finalement, on est en train d'attendre les derniers jours. Est-ce que là, on est plus vulnérable, justement, ou il n'y a pas forcément de logique comme ça?
S'il y a de la fatigue qui est accumulée, forcément, c'est un facteur qui rend, comme tu le disais, plus vulnérable l'organisme. Après, il faut regarder au niveau du stress, c'est un facteur qui influence et qui peut affaiblir l'immunité. Le sommeil également, l'hygiène de vie de manière globale et même l'âge, si on prend encore de façon plus élargie, c'est un paramètre qui influence l'immunité. Donc c'est vrai qu'en fonction de la période dans laquelle va se trouver l'athlète, il peut y avoir des zones un peu plus sensibles sur ça.
Marie, on parle souvent dans ce podcast du fameux triptyque HAS, hein, hydratation, alimentation, sommeil. C'est encore plus important à respecter et à mettre en place correctement pendant l'hiver, forcément?
Oui, c'est l'alimentation, c'est l'un des piliers santé et je pense que Christophe vous présentera ses fondations santé juste après. Mais le point de départ, c'est à mon sens quand même l'assiette. Et je tiens quand même à rappeler qu'il y a, pour information, 70% du système immunitaire qui est situé au niveau digestif. Donc rien que cette donnée-là, elle permet de bien se rendre compte de l'importance de bien nourrir nos intestins, d'être en symbiose avec ce qu'on appelle le microbiote. Donc c'est l'ensemble des micro-organismes vivants qui nous composent, qui nous habitent.
Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais l'hydratation l'hiver, c'est aussi important que l'été. L'été, on se dessèche, donc forcément, on a plus soif, on boit plus d'eau.
T'as la sensation l'été, ouais.
Et oui, voilà. C'est ça. L'hiver, il faut se forcer à boire quand même.
Oui, en sachant que la sensation, en fait, sensation de soif, c'est déjà un mécanisme d'alerte.
Oui, c'est déjà un problème.
C'est déjà trop
tard. Quand on a soif, c'est déjà ouais. C'est ça. Donc, en réalité, moi, en général, ce que je dis dans le cadre de mes consultations, c'est la sensation de faim, on va essayer de l'écouter, de la respecter, versus la sensation de soif, de l'anticiper.
D'accord.
Et on essaie de fractionner tout au long de la journée, et encore plus en période hivernale, où finalement, avec le froid, on va moins la ressentir.
Le dernier élément sur l'hiver, c'est aussi le manque de luminosité. Forcément, il y a moins de soleil l'hiver. On s'entraîne souvent le matin ou le soir, donc on s'entraîne lorsqu'il fait nuit. Ça aussi, c'est préjudiciable pour les défenses immunitaires. Tu as des carences en vitamines qui se créent à ce moment-là?
Tout à fait. On a en fait la vitamine D qui va être synthétisée par le biais du rayonnement du soleil. Et comme tu le disais, en hiver, on a un risque plus élevé de par un ensoleillement qui est moindre. Sauf que la vitamine D, elle a son rôle à jouer, elle permet vraiment de renforcer l'immunité. À l'heure actuelle, on estime 80% de la population qui est déficiente donc en vitamine D et la supplémentation, Christophe en parlera, mais permet quand même de réduire très largement le risque d'infection.
Ouais. Fallait pas faire l'enquête chez les gens du Nord parce qu'ils voient jamais le soleil, donc là on était mal barré.
C'est les 80%.
C'est ça. On embrasse nos amis du Nord, Méline Rollin notamment, et qui vit toujours dans la région de Lille.
Villeneuve d'Ascq.
Est-ce que, tiens, toi d'ailleurs, Johan, tu adaptes tes heures d'entraînement en fonction des saisons? Est-ce que du coup, l'hiver, tu t'entraînes plus entre midi et deux, je sais pas?
Après, c'est plus une question d'organisation par rapport aussi à la logistique liée à la chaleur. Bah, l'été, je vais éviter les gros pics de chaleur, donc je vais plutôt m'entraîner tôt le matin. Et tard le soir, et l'hiver c'est l'inverse, je vais plutôt y aller quand il fait jour pour éviter de courir de nuit ou tout ça. Mais la question de l'ensoleillement, je trouve que c'est la vitamine D, c'est ne serait-ce que d'un point de vue mental. C'est vrai que l'hiver, on a l'impression que aller s'entraîner, c'est quand même
c'est un effort. Déjà mettre les baskets, c'est un effort.
C'est quand il pleut dehors, que vous rentrez, qu'il fait nuit à 17h, que vous avez passé une journée de galère au boulot, eh ben il faut une sacrée dose de motivation pour mettre les baskets hein. Ouais. Donc c'est vrai que même d'un point de vue mental, cette période est quand même assez délicate hein.
Imagine un mois de janvier à Font-Romeu, mon vieux.
Mais ils ont la neige, non, c'est l'une des villes les plus ensoleillées, il y a les fours solaires et tout, il y a du soleil.
C'est pas mal.
Bon, la neige, malheureusement, on l'a pas chaque année, elle se fait un peu attendre,
voilà,
cette
exactement.
Année, c'est compliqué.
Alors, Marie, on t'a convoqué, allons-y sur les conseils, comment lutter efficacement et comment justement booster cette immunité pour éviter au maximum de tomber malade. Premier conseil, je le disais, c'est peut-être s'éloigner des enfants pendant 2 ou 3 mois, parce que les virus viennent d'eux, donc faut pas trop de bisous,
Tout ça.
On fait les gestes
barrières. Tu mets les gestes barrières et le masque. T'as pas écouté ce qu'on t'avait dit, toi, il y a 2 ans.
Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Les enfants, c'est
un nid à microbes.
C'est un vecteur de contamination.
Ouais, donc là, c'est pour la blague, évidemment. Avant d'aborder l'alimentation, parce qu'on en parlera bien dans la deuxième partie, on l'a sous-entendu, et on en a beaucoup parlé dans la période de Covid, mais l'importance cruciale de ces gestes barrières pour toutes les infections, d'ailleurs. Les réflexes sont plutôt rentrés dans la tête des gens, mais ça aussi, c'est un moyen de lutter efficacement et de rester en bonne santé. On ne le répétera jamais assez, Marie.
Ah oui, tout à fait d'accord. Je pense que la crise sanitaire, elle a quand même montré l'importance de renforcer notre immunité et d'avoir les précautions nécessaires aux périodes adaptées où on serait le plus à risque au niveau de l'immunité. Mais effectivement, c'est des gestes à conserver en parallèle de l'hydratation, de l'alimentation, comme tu le disais.
Si on commence à parler d'alimentation, on parle beaucoup de variation. C'est important de varier ce qu'on mange. Pourquoi ? Explique-nous pourquoi. C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut manger tout, des fruits, des légumes,
équilibré, varié.
Voilà, pas manger seulement ce qu'on aime. Pourquoi c'est important de varier alors ?
Alors en fait, c'est important de considérer qu'il n'y a pas d'aliment miracle à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas d'aliment qui contiendra toutes les propriétés nutritionnelles dont on aura besoin. mais au même titre qu'il n'y aura pas d'aliments interdits, tout sera vraiment question de quantité, et à la fois raisonné et raisonnable. Et c'est vrai que la diversité, selon moi, c'est vraiment la clé de l'équilibre alimentaire. Donc l'équilibre alimentaire qui se fera en règle générale sur la semaine. Donc c'est important d'avoir une certaine variété et diversité, ouais, tout à fait.
Quand on parle fruits et légumes, tu conseilles les fruits et légumes de saison ou désormais avec les surgelés, on peut manger n'importe quel fruit à n'importe quel moment de l'année? Ça, c'est un avantage ou tu conseilles malgré tout de respecter les saisons des fruits et des légumes?
Ouais, je pense que c'est important de respecter la saisonnalité. La nature, elle est quand même bien faite et c'est important sur ça d'optimiser la qualité nutritionnelle de nos produits qui, malheureusement, tendent à diminuer sur ce point-là de par la cuisson ou tous les process de transformation qu'ils vont subir par la suite. C'est bien de s'orienter de préférence vers un produit qui va être local, de saison et adapté sur ça.
Johan, tu te forces à manger tout l'hiver ou pas forcément?
L'été, c'est assez facile parce que l'été, moi, je me fais beaucoup de salades. C'est beaucoup plus facile pour trouver des fruits et des légumes en quantité à manger. C'est un peu plus délicat l'hiver. Mais ouais, j'essaie de varier au maximum et de rajouter un peu de bon gras, tu vois, dans l'alimentation. Manger certains poissons, tu vois, les saumons, les choses comme ça. Pas mal d'huile, moi je tourne beaucoup à l'huile d'olive, et puis les noix, les noisettes, les amandes au niveau pour la collation, les choses comme ça. Donc il faut varier comme tu le dis, c'est pas simplement des pâtes H24, hein, ça c'est pas vrai, ça c'est simplement la veille d'une grosse sortie ou le soir après une grosse séance, mais ça constitue pas tous les repas du coureur, quoi. On mange pas que des féculents.
Le barbecue est plus dur à allumer en plus au mois de janvier, quoi. C'est ça le problème.
Ah là, c'est plus la tartiflette.
Ouais. Ah bah, c'est pas trop conseillé non plus, peut-être. Non mais Marie, est-ce qu'on a tous les mêmes besoins déjà? Parce que tiens, l'exemple est parfait. On parle à des coureurs amateurs souvent qui ont un bon niveau, mais ce qu'on peut appeler des coureurs lambda. Johan est un coureur de haut niveau puisqu'il pèse 60 kilos tout mouillé. Est-ce que les besoins vont être les mêmes pour Johan et pour moi, par exemple, qui suis un coureur amateur?
Non, alors effectivement, la nutrition, c'est quelque chose qui est très individuel, qui nécessite d'être adapté à chacun en fonction de son poids de corps, en fonction de l'objectif qu'il va se fixer. Je t'entendais parler du coup du marathon, etc. Ben, tout ça, c'est des facteurs à prendre en considération dans le cadre de ton alimentation, et également en fonction de son niveau d'activité physique. Effectivement, si tu as un volume d'entraînement sur la semaine de 3-4 heures versus une vingtaine d'heures chez un athlète de haut niveau, forcément les besoins ne seront pas les mêmes et devront être adaptés par le biais des consultations en nutrition.
Et voilà, bah oui, t'as raison de te faire un peu de pub.
Évidemment. Je presse pour ma paroisse.
En plus, t'as été maligne parce que t'es resté dans ton coin, dans ta région. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, donc ça doit marcher pas mal. J'espère pour toi, en tout cas, que ça fonctionne bien. Juste, on parle beaucoup d'hydratation. Évidemment, ça passe par l'eau, même l'eau gazeuse. Hein. Il faut d'ailleurs varier les deux, c'est ce qu'on avait dit dans différents épisodes. Tu conseilles de pousser jusqu'aux boissons isotoniques, même pour un coureur amateur?
Alors, ça va dépendre de la durée de son entraînement. Typiquement, si on est sur un heure d'effort qui dépasse l'heure et demie, ça a du sens de venir apporter de l'énergie par le biais d'une boisson, dans le sens où la course à pied, c'est une discipline qui est assez spécifique de par le risque de troubles digestifs qui est quand même assez élevé. Et c'est d'ailleurs première cause d'abandon en compétition, les troubles digestifs. Donc c'est vrai que la boisson, elle doit être testée à l'entraînement, bien entendu. Mais si on est sur des séances qui ont un temps assez long, ça a du sens de venir compléter avec une boisson d'effort.
Marie, je suis obligé de te le dire. La semaine dernière, on a reçu le recordman de France du 100 km, Guillaume Ruel. Tu sais ce que c'est, ces ravitaillements, lui, pour garder la forme jusqu'à la fin de son 100 km?
J'écoute,
il boit des canettes de Red Bull en entier.
De Red Bull.
Incroyable. Alors nous, on a dit, ceci est réalisé par un professionnel, ne faites pas ça chez vous, mais c'est dingue, non? Comment tu vois ça, toi, de ton œil d'expert?
Ah ben, c'est sûr que ça vaudrait le coup de mettre en place un podcast pour en discuter sur le sujet.
Nous, on n'en revenait pas quand il nous a dit ça. Il a dit, moi, ça me met un coup de boost. Ah bah oui, d'accord, tu m'étonnes.
Bon, il n'y a pas la vodka, mais essayez.
Non, mais c'est fou, non?
C'est sûr que faut différencier la boisson énergétique de la boisson énergisante, qui en termes de compo, c'est vrai que Red Bull, c'est pas le plus adapté à l'effort, pour le coup, en termes de besoins à l'entraînement ou en compétition, on n'est pas sur l'optimisation, quoi, disons.
Bah ouais, voilà. Donc évidemment, tu as des réticences et on le comprend bien. Avant de justement tout détailler des compléments alimentaires, on va accueillir Christophe Cario dans un instant. Mais je voulais te poser la question, Johan. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends? Voilà. Est-ce que tu le prends plus d'ailleurs? Tu en consommes plus l'hiver? Et comment tu choisis? Comment tu fais ta sélection? Est-ce que tu es accompagné pour ça, toi, Johan?
Oui, bah t'es plus ou moins accompagné par ton médecin. Nous, on a l'avantage de pouvoir faire des prises de sang de façon assez régulière pour prévenir les carences, tu vois. Donc c'est quasiment une par mois. Donc s'il y a une carence en vitamine D, bah tu prends une ampoule de vitamine D. Si ton taux de fer a baissé ou de magnésium, tu peux complémenter. Alors après voilà, ça c'est vraiment après, c'est un peu presque trop tard parce que quand tu le vois à la prise de sang, ça veut dire que ton organisme est en manque. Donc, moi, j'essaie quand même de complémenter, surtout quand tu pars en stage, que ça soit en altitude ou à l'étranger. Tout à l'heure, on parlait des repas variés et équilibrés. La difficulté, par exemple, quand on part en stage au Kenya ou en Afrique, c'est [S2] Ouais. [S1] Qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes produits qu'en France. Donc d'un point de vue alimentaire, bah ça va être différent. Donc c'est là où c'est à nous de peut-être complémenter en vitamines, en minéraux, en magnésium, parce que on sait pas exactement ce qu'on va manger, ce qu'on va retrouver sur place, et c'est la difficulté. Donc oui moi je pareil pour tout ce qui est probiotique et tout, pour tout ce qui est flore intestinale et tout ça, pour booster le système immunitaire, moi j'utilise pas mal. Et après je suis un peu plus ou moins orienté par ton médecin de la fédération ou ton médecin perso. Ouais.
Est-ce que, avant d'entrer dans le sujet des compléments alimentaires, Marie, tu conseilles même à un coureur amateur de pratiquer la prise de sang comme ça, je sais pas, au début de l'hiver pour identifier certaines carences ou pas forcément?
Oui, effectivement, moi, dans le cadre des bilans, je demande toujours un bilan sanguin, voir d'où est-ce qu'on part et avoir effectivement un point de départ sur ce qui a été fait auparavant, et c'est un bon indicateur, ça reflète finalement un peu l'état général de l'athlète, donc c'est intéressant.
Alors allons-y sur les compléments alimentaires et sur les vitamines ciblées, parce que évidemment elles ont toutes un rôle différent. Quelles vitamines sont à privilégier pendant l'hiver, justement? On parlait de manque de soleil, du coup il faut faire un effort au niveau de quelle vitamine, Marie?
Vitamine D, du coup, effectivement, qu'on va retrouver déjà au niveau de l'alimentation, dans tout ce qui va être huile de foie de morue, les poissons gras, comme tu le disais, et le fait de pratiquer une activité en plein air. Mais c'est vrai que vitamine D, hyper intéressante, qui va jouer aussi un rôle au niveau solidité osseuse, donc même dans la prévention des blessures, si on élargit un peu pour les sportifs, qui est aussi un frein à la performance. Mm-hmm. C'est intéressant, effectivement, vitamine D, de venir la compléter sur ça.
Et les vitamines à aller chercher pendant l'hiver pour booster l'immunité, globalement, c'est lesquelles?
Globalement, on va avoir tout ce qui est antioxydant, donc on va avoir la vitamine A qui va être immunostimulante, également la vitamine E antioxydante, la vitamine C dont on entend beaucoup parler, est très intéressante pour réduire notamment le risque de contracter une infection, surtout chez les sportifs. Les études montrent vraiment un plus de la combiner en fait à une activité physique. Et après on va retrouver le zinc, le fer, qui là aussi permettent de réduire le risque de contracter une infection ou vraiment de booster l'immunité. Donc voilà, tout ça c'est en ayant une alimentation qui est, comme on le disait, diversifiée et équilibrée.
Parce que quand on parle de compléments alimentaires, ça peut faire peur à certains d'entre nous. C'est vrai qu'il faut être un peu spécialiste pour bien les choisir, bien respecter les dosages. Quel conseil pratique tu peux donner, toi, Marie, justement, quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on a envie quand même de faire un effort, voilà, de mettre toutes les chances de son côté?
Je pense qu'il faut vraiment considérer, je me répète, mais l'assiette qui est le point de départ, voir ce qui est mis en place en fait quotidiennement, quelle est vraiment la routine alimentaire. Et en complément, comme leur nom l'indique, on vient compléter au cas par cas, dépendamment des problématiques qu'on peut rencontrer, des objectifs qu'on va se fixer. Et c'est vrai que sur nous, on a les indispensables et les incontournables, en fait, les essentiels santé avec multi, magnésium, oméga 3, où on prend pas de risque à venir les prendre en tout temps, au même titre que la vitamine D, comme on le disait, on a quand même un risque de carence qui est largement étendu. Donc après, c'est plus au cas par cas où effectivement, on vient adapter et individualiser sur ça.
Ok, alors on vous posait la question, comment bien choisir? Du coup, on passe au bon plan matos.
RMC.
Le bon plan matos.
Et là, tiens-toi à carreau, mon petit Johan. On va accueillir un quintuple champion du monde de karaté artistique. Ah, tu peux prendre un coup de pied dans le nez si ça se passe mal.
Oh là là, mais ça me fait pas peur.
On accueille Christophe Cario, qui est donc quintuple champion du monde et fondateur de NutriPure. Bonjour Christophe.
Et bonjour à tous.
Bienvenue Christophe, et bonne année. Hein,
bonne année. Ben, bonne année à vous, et bonne année à Johan, et bonne année à Marie.
Eh bien oui, vous vous connaissez avec Marie, puisque Marie travaille également avec la marque NutriPure. Bah, racontez-nous la genèse de l'histoire. Je le disais, vous êtes un sportif de haut niveau. C'est un projet familial que vous avez mené avec votre frère au départ. Hein.
Complètement. Ben, écoutez, à la base, ben, moi donc, j'étais dans le karaté pendant de très nombreuses années. Comme vous l'avez dit, j'ai gravi... Beaucoup de podiums, voilà, pendant un certain temps. Et durant toutes ces années de compétition, j'ai compris l'importance d'utiliser des compléments alimentaires, comme on l'a rappelé en fait durant le podcast, en complément de mon alimentation et d'une hygiène particulière, donc respect du sommeil, respect d'un entraînement, on va dire, bien planifié. Et très rapidement, je me suis heurté à quelque chose qui était que on retrouvait dans tous les compléments alimentaires du marché à l'époque, ben des compléments qui contenaient énormément de conservateurs, d'additifs, voire même des molécules qui s'apparentent à des nanoparticules. Et on a commencé dans les années 2000-2010 à identifier que ces molécules-là, elles pouvaient être problématiques pour la santé à long terme, surtout si on les cumulait entre l'alimentation et bien entendu la complémentation. Et donc j'ai commencé à chercher des marques de compléments alimentaires qui soit n'en mettaient pas, soit en mettaient le moins possible. Oui. Et déjà à l'époque, le choix était extrêmement compliqué. Et donc est venue l'idée progressivement de créer ma propre marque de compléments alimentaires, déjà pour pouvoir me servir moi-même dedans.
Oui.
Et puis
c'est plus pratique.
Exactement. Vous savez exactement ce que vous consommez tous les jours.
Bien sûr.
Et puis on a commencé à travailler dessus avec mon frère et qui est ingénieur de formation. Moi, je suis diététicien de formation.
D'accord.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est dit, il y a un vrai marché, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que, effectivement, dans le monde du complément alimentaire, et c'est un petit peu la façon dont vous avez introduit cette partie-là, il y a un petit peu à boire et à manger, si on peut dire.
Ah oui.
Donc, il y a du très très bon et du très très mauvais.
Christophe, ça fait peur un peu à certains, quand on n'est pas, je le disais, spécialisé. On se demande toujours un peu ce qu'on prend. Là, vous nous avez parlé de transparence, évidemment, mais au-delà des substances nocives qu'on peut retrouver dans certains, on se dit toujours, est-ce que c'est vraiment adapté à moi, à ma santé, à mon hygiène de vie? C'est toujours peut-être la réticence, la barrière qu'il faut franchir, quoi, c'est ça?
On est absolument d'accord tous ensemble là-dessus. C'est pour ça que Marie, elle a rappelé qu'il y avait des compléments alimentaires qu'on appelle les fondations santé chez NutriPure, qui sont tout simplement basés sur un multivitamine qui est bien dosé, dans lesquels on n'a pas mis justement de vitamines ou de minéraux qui peuvent potentiellement poser des problèmes chez certains individus et pas tous. Mmh. C'est aussi ça la complexité de la micronutrition. Vous retrouvez le magnésium qui est très très important et toutes les formes de magnésium qu'on a dans les compléments alimentaires ne sont pas forcément bien absorbées par l'organisme et peuvent même avoir des actions contraires à ce qu'on souhaiterait. Par exemple, je vais vous citer le chlorure de magnésium qui est une forme de sel de magnésium qui est très utilisée dans l'industrie du complément alimentaire ou même dans l'industrie pharmaceutique pour une raison très simple, c'est pas cher. On peut appeler ça du magnésium, donc on peut vendre ça sous l'appellation magnésium, sauf que c'est laxatif à certaines doses. Donc vous allez consommer un complément qui, au lieu en fait de vous apporter quelque chose de positif, va être plutôt perturbateur pour l'organisme. Donc inversement, vous avez d'autres formes de magnésium qu'on appelle les sels de magnésium de troisième ou de quatrième génération, par exemple le bisglycinate de magnésium, qu'on retrouve dans le magnésium NutriPure, qui est une forme de magnésium qui est très très bien assimilée par l'organisme. Mais vous en avez d'autres. NutriPure a participé avec deux ou trois autres grandes marques à un petit peu un examen de conscience de l'industrie du complément alimentaire en France et on a vraiment contribué à faire changer les mentalités.
D'ailleurs, juste Christophe, parce que vous êtes concerné, et puis là je pense à Johan dans sa démarche d'athlète de haut niveau. Oui. Johan, donc tu nous le disais, tu es plutôt encadré par rapport à ça. Compléments alimentaires, c'est des gélules à prendre. On peut aussi tout de suite penser au dopage. Alors forcément, le coureur amateur, lui, s'en fiche un petit peu de savoir s'il y a un produit qui peut être considéré comme dopant ou non dans son complément alimentaire. Toi, Johan, tu es vigilant à tout ça. Tu as une formation là-dessus. Si jamais tu es amené à en prendre, tu te renseignes bien sur tout ce qu'il y a dedans,
etc. C'est dès les catégories relativement jeunes, KD junior, quand tu commences vraiment à t'entraîner fort et que bah du coup tu commences à complémenter un peu, que là on a eu des bien expliqué que les produits qu'on trouve sur internet, on sait pas exactement ce qu'il y a dedans, que si on doit complémenter, il faut se rapprocher d'un médecin et prendre des produits avec un certain label antidopage, le label World Protect ou antidopage, où tu es sûr de pas trouver de, parce que des fois il suffit d'une petite trace, il y a des athlètes comme ça qui se sont fait attraper en achetant des produits et il y a des micro traces de je ne sais plus quoi et tu te retrouves contrôlé positif, donc bien évidemment qu'il faut veiller là-dessus. Et puis c'est surtout, après, c'est pour nous, mais c'est aussi pareil pour tout le monde, c'est pour la santé. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, les additifs, les machins, tout ce qui est un peu trop transformé, c'est pas bon pour l'organisme. Au-delà que ça soit, que ça t'amène un contrôle positif, c'est surtout que c'est à l'inverse de ce que tu recherches, en fait.
Parce que, Christophe, j'imagine que c'est évidemment une de vos missions, parce que la transparence est prônée par NutriPure. Et d'ailleurs, je crois que vous travaillez en collaboration avec certains athlètes. Donc, inimaginable de trouver un produit qui peut être considéré comme dopant dans les compléments alimentaires que vous fournissez.
Absolument. En fait, nous, tous nos compléments alimentaires, ils passent devant la direction de la répression des fraudes.
D'accord.
Ce qui permet, en fait, d'avoir, si vous voulez, déjà le label, on va dire, étatique. Donc la répression des fraudes, elle est extrêmement contraignante en France. Elle peut être un peu plus laxiste dans certains pays européens ou carrément très laxiste aux États-Unis, exactement, Johan. Et donc, si on veut choisir un bon complément alimentaire, il faut que ça soit une marque française, de préférence. Et vérifier que, par exemple, la marque que vous choisissez, elle a fait tous ses dépôts à la répression des fraudes. Là, déjà, vous avez un sacré gage de qualité et de sécurité sur les compléments que vous prenez, quoi.
Ok. Question à Marie, donc, qui est notre experte en nutrition sportive. Est-ce que les compléments alimentaires, c'est adapté à tous ? Est-ce que tout un chacun a intérêt d'en prendre ou finalement, ça dépend un peu du profil du sportif ?
Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est à considérer en fonction de l'objectif de la personne. Après, on a une base commune avec les incontournables qu'on peut retrouver pour les différents athlètes. Mais je pense que c'est spécifique après au cas par cas. Le monde des compléments alimentaires, il est quand même assez vaste. Et je pense qu'on peut parfois rapidement se perdre, d'où la nécessité d'être orienté et aiguillé. Parce que c'est vrai que j'ai pu rencontrer des athlètes, même à haut niveau, qui parfois même surconsommaient. Et des fois, c'est bien de se rediriger vers l'essentiel, d'être au clair sur 3, 4, 5 compléments. Ça va dépendre de chacun. Mais un intérêt dans le complément, il y en aura toujours. Donc en fait, on pourrait consommer l'intégralité du site de NutriPure, mais après à adapter au cas par cas.
Parce que ce qui est dur dans votre secteur d'activité, Christophe Cario, c'est que déjà, il faut être extrêmement pédagogique, expliquer tout ce qui est proposé aux clients et surtout... C'est un peu impalpable au départ quand on commence à prendre des compléments alimentaires. On se dit, il n'y a pas des résultats comme ça en 24 heures. On sent pas son organisme évoluer comme ça en si peu de temps.
Tu te transformes.
Ouais, mais c'est ça. Donc les gens peuvent se dire, finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est peut-être la difficulté d'ailleurs de votre activité, Christophe.
C'est du long terme.
Alors oui et non. Alors on va contextualiser. Ouais. Par exemple, si on prend des gens qui depuis des années consomment du magnésium avec du chlorure de magnésium, l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, sont des gens qui vont pas forcément tirer profit de ce sel de magnésium et qui ne verront pas de grande différence sur l'énergie. Le magnésium, il intervient, si vous voulez, dans tous les processus énergétiques cellulaires. Et donc, si vous manquez de magnésium, la production d'énergie, elle ne peut pas se faire correctement. Et donc, vous allez avoir, pour un sportif, pour un coureur, des problèmes d'oxygénation, des problèmes, on va dire, de jambes lourdes, etc. Inversement, si vous prenez un magnésium de bonne qualité qui est bien absorbé, en l'espace de quelques jours, les gens vont vous dire « Ah oui, là, il y a une vraie différence ». Une vraie différence parce que je suis moins fatigué, j'avance à nouveau un petit peu plus vite, etc. Donc il y a ça, il y a les analyses de sang, comme Johan nous l'a rappelé tout à l'heure, qui peuvent effectivement être un bon apport, un bon support pour savoir où on va et d'où on part. Et puis ensuite, vous avez des compléments alimentaires qui vont avoir des actions boostantes immédiates. Je pense par exemple à certains acides aminés. Qui vont être vraiment stimulants pour l'organisme et vous allez ressentir la différence si vous faites une séance avec ou si vous faites une séance sans. Voilà.
Mais je pense par exemple, vous nous le disiez, à vos compléments alimentaires, la multivitamine, là. On n'a pas le même besoin nutritionnel entre Johan et moi par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même entraînement. Est-ce que c'est adapté aux deux ou est-ce que Johan doit prendre plus de gélules que moi par exemple ?
Alors, Johan, je pense que d'une part, sa nutrition, elle doit être mieux optimisée peut-être que la vôtre, ou vous permettez peut-être...
Alors, il boit du vin quand même. Hein. Ouais,
et des chocolatines.
Des chocolatines. Allez, pas au chocolat, s'il te plaît.
mais concrètement, je pense qu'un sportif de haut niveau aura peut-être une alimentation qui est mieux calibrée que, on va dire, un sportif moyen. Mmh. Et par voie de conséquence, en fait... Déjà, son alimentation va lui apporter une charge de vitamines et de minéraux et d'oligo-éléments plus importante que, par exemple, votre cas à vous. Mais peut-être que vous mangez super bien. Peut-être que je prends le
super
mauvais
bien,
exemple.
Bon, pas trop mal, on va pas se mentir.
Bon, donc forcément, l'athlète de haut niveau, naturellement, il doit avoir une densité micronutritionnelle plus importante dans son alimentation de tous les jours que vous. Et par voie de conséquence, on pourrait se dire qu'il a besoin à peu près des mêmes apports de compléments alimentaires qu'une personne lambda, simplement parce que,
d'accord,
à votre différence à vous,
sa
charge, on va dire, d'entraînement est elle plus élevée. Donc il va avoir des dépenses, des pertes, on va dire, de minéraux qui vont être plus importantes que les vôtres. Donc l'un dans l'autre, les choses vont s'auto-équilibrer. Et Johan, il aura besoin à peu près d'autant de vitamines et de minéraux que vous, mais pour des raisons différentes. Voilà.
Rassurez-moi, Christophe et Marie, chez vous aussi, on dit pain au chocolat. Chocolatine, ça n'existe pas.
Je fais partie de la team pain au chocolat.
Ah, merci bien. Merci. Christophe aussi ?
Moi, j'en mange pas, moi.
Ah,
moi
mais même si,
il dit rien du tout.
Okay. J'allais rajouter, pas la même boulangerie. Si j'en consomme pas.
Ok. Là, on parle donc de la gamme de produits NutriPure. Est-ce que les sportifs qui pratiquent les sports d'endurance sont plus concernés justement par cette gamme de produits ou est-ce que ça concerne tous les sportifs ? Je ne sais pas, les sports collectifs, les sports de combat d'ailleurs, dont vous êtes issu, Christophe ?
Là, on est vraiment sur tous les sportifs et puis de façon plus générale sur les gens qui veulent se maintenir et rester en bonne santé et puis limiter justement les infections hivernales puisqu'on est sur la thématique immunité sur ce podcast.
Ouais.
Mais on a vraiment des compléments qui s'adressent à tous avec parfois certaines spécificités pour des gens qui vont pratiquer des sports explosifs, des sports intermittents ou inversement des gens qui vont être plutôt orientés sur l'endurance. Mais la base commune, c'est ce que chez NutriPure on appelle les fondations de la santé. C'est généralement le multivitamine, le magnésium, les oméga 3 et l'hiver la vitamine D3.
Johan, d'ailleurs, je crois que tu as des amis qui connaissent cette marque, qui travaillent avec.
Oui, moi je connais du coup grâce à Johan Koval.
D'accord.
Qui utilise les produits NutriPure. Et c'est vrai qu'il m'a filé, un peu de quelques produits pour que je teste. Donc ouais, j'ai déjà utilisé pas mal de produits NutriPure, que ce soit le multivitaminé. Ou alors après, je me rappelle, ces derniers mois...
Il t'a pas donné les gélules au cul de sa voiture comme ça la nuit, parce que ça aurait pu être mal interprété, tu vois, le gars qui donne des gélules comme
c'est ça
à l'autre. T'imagines, hop, vous, tout de suite, crac.
Là, dernièrement, j'ai utilisé les pectines de collagène pour justement mon genou.
Les tendinites.
Ma tendinite.
Je crois que c'était pour tes cheveux. Non.
Collagène, ouais.
La peau aussi, la peau aussi.
Ouais, j'ai une meilleure mine depuis. Mais bon. Non, mais c'est vrai que ça, c'est, voilà, ça fait pas partie de, du valeur du podcast aujourd'hui d'un point de vue immunitaire. Mais tout ce qui est articulaire et tout, il y a aussi cette gamme de produits qui nous permet, bah, dès qu'on a une petite tendinite, un petit machin, du collagène, c'est très bien pour les coureurs aussi.
D'ailleurs, hein. Tu me fais penser à une question qui était très intéressante que certains vont se poser. Est-ce qu'on conseille des cures de compléments alimentaires tout au long de l'année ou est-ce qu'il faut considérer que ça concerne seulement des petites périodes, Marie ? Là, on parlait de l'hiver notamment. Est-ce qu'il faut accentuer l'hiver et peut-être en prendre moins l'été ? Est-ce qu'il y a des règles déjà à respecter ?
Ben, je pense qu'en fonction de la saisonnalité, effectivement, comme on le disait, l'immunité, on va mettre l'accent davantage période automnale, hivernale. Après, effectivement, à l'arrivée des beaux jours, on peut s'orienter vers d'autres compléments, au même titre qu'aux périodes de reprise. À la rentrée, on va être peut-être sur l'action plus du stress avec les plantes adaptogènes, par exemple l'ashwagandha, rhodiola safran, des choses comme ça. Ou après, on peut être dans le préventif comme dans le curatif.
On peut pas devenir addict aux compléments alimentaires. Non, c'est pas...
Ben, y a quand même, par exemple, là, les plantes adaptogènes dont je parlais, il y a la spécificité de marquer un temps d'arrêt. On est sur des cures de 3 semaines entrecoupées d'une semaine d'arrêt. Où là, on respecte ce format de cure-là. Après, pour les incontournables, effectivement, quand on a des besoins qui sont un peu plus élevés en comparaison à quelqu'un qui serait sédentaire, on peut tout à fait le maintenir tout au long de l'année. Et je crois même que Christophe, c'est ce que tu fais de les prendre en tout temps.
Oui, moi, par exemple, une des vitamines que j'arrête, par exemple, moi j'habite dans le sud de la France, donc j'arrête de prendre de la vitamine D3 à partir du mois d'avril, parce que ben je m'entraîne quasi exclusivement tous les jours dehors, et parce que le niveau de oui, j'ai de la chance. Et parce que le niveau d'ensoleillement est suffisant pour produire via la peau ma propre vitamine D3. Donc, par exemple, ça, c'est clairement une vitamine que si vous vous exposez suffisamment au printemps jusqu'au début de l'automne, vous pouvez arrêter, par exemple. Si on n'est pas d'un tempérament très anxieux ou qu'on n'a pas une vie trop trépidante, on peut effectivement se contenter de faire des cures de magnésium et ne pas prendre de magnésium toute l'année. Et là, par contre, inversement, un sportif de haut niveau, comme Johan, qui s'entraîne beaucoup, lui, il aura plutôt tendance à, via ses analyses sanguines, à un petit peu diminuer un petit peu le magnésium à certains moments, parce qu'il court moins, par exemple, il en aura moins besoin. À d'autres moments, le réaugmenter, mais maintenir la prise de magnésium tout au long de l'année, pour éviter ce qu'il disait tout à l'heure, qui était très juste. Quand votre analyse de sang, elle vous dit que vous avez une carence, c'est déjà trop tard, en fait.
Ouais, exactement. C'est comme quand sur un marathon, on a soif, c'est que souvent, c'est trop tard.
Exactement.
Tant pis pour vous, vous allez souffrir. on retrouve les produits NutriPure sur le site internet, hein, c'est ça, Christophe ?
Oui. www.nutripure.fr.
Et allez-y, parce que je le disais, c'est très pédagogique. Vous avez l'explication de chaque produit avec une petite vidéo de Christophe en dessous. Voilà, il vous explique tout en 30-40 secondes. Comme ça, vous ne partez pas dans l'inconnu. Je vous remercie, Christophe. Je remercie également Marie d'avoir été avec nous. Et je précise que vous nous faites gagner un magnifique cadeau. Pour ceux que ça intéresse, on fait gagner 2 packs incontournables. On en a parlé, tiens, durant ce podcast. Donc, dans les packs incontournables, Christophe, il y a multivitamines, magnésium et oméga 3. Là, c'est complet.
Absolument, exactement.
Voilà. Donc voilà, ça c'est pour être en forme toute l'année. Ça t'intéresse, Yodu ?
Est-ce qu'il y a le granola avec ?
Le granola ?
Le granola, ouais, parce qu'il y a le granola, oh, tu rigoles, mais j'ai le granola chocolat, c'est une tuerie. Hein.
Ouais, ça c'est pas prévu. Ça
remplace le pain au chocolat.
Voilà. Merci.
On te l'enverra, Johan. Allez,
voilà. On te l'enverra si tu dis pain au chocolat, surtout. Sinon, okay, tu nous oublies.
Je vais faire l'effort.
Voilà. Merci, Christophe. En tout cas, c'était très sympa. Merci à Marie pour tous ses conseils. On espère qu'on a répondu à toutes les questions
merci
que vous
posez. Merci à vous.
Merci, Yodu. Hein, évidemment, épisode très intéressant, c'est un sujet qui concerne tous les coureurs qui nous écoutent, professionnels ou amateurs. On se retrouve la semaine prochaine dans RMC Running et on vous rappelle toujours ce conseil en fin d'épisode. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.